Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons rester à Montignac pour cette émission de la matinée, et non pas avec Joseph Joubert et ses sentences, mais avec Pierre Lachambeaudie, également natif de Montignac au XIXe siècle. Alors, il a écrit beaucoup de fables, c'est un fabuliste, comme je disais, et il y a un de ses derniers livres qui s'intitule « Prose et vers » par Pierre Lachambeaudie, et c'est édité à Paris, chez l'auteur, rue Saint-Ambroise, numéro 39, et c'est édité en 1867. Certainement, peut-être, son dernier livre, mais je crois qu'il décède en 1872. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il va faire sa biographie. Alors, pour le mieux connaître, je pense que le mieux, c'est de voir un peu ce qu'il écrit. Voilà, alors donc, je vais lui laisser en quelque sorte la parole. Alors, je suis né à Montignac, Dordogne, le 16 décembre 1806. Mon grand-père, Desplat Lachambeaudie, était conseiller au présidial de Sarlat. Mon père, ancien volontaire des armées de la République, était rentré avec le grade de lieutenant et fut reçu plus tard percepteur des contributions. Veuve d'Anne Maillaudon, morte quelques jours après ma naissance, il me laissa 4 ans en nourrice et me fait venir sous le toit paternel après un second mariage. Il m'envoya jusqu'à l'âge de 20 chez un maître d'école. À 10 ans, j'entrai au collège de Montignac. Il était dirigé par M. Granchet, auteur d'un recueil de fables, devenu plus tard inspecteur de l'université de Bordeaux. Et mon professeur était M. Courteau, qui était un helléniste distingué. En 1823, je fus conduit par mon père au séminaire de Sarlat, d'où je fus expulsé plus tard pour avoir mis trop de négligence à me confesser. Un vénérable pasteur, le curé de Montignac, me fit faire ma première communion et parvint à obtenir ma rentrée au séminaire. J'en fus encore et définitivement chassé. Une comédie en vers de ma composition, montée et jouée par moi et quelques condisciples sur les tables de la salle d'études, enfin une chanson bachique de mon cru que j'avais eu l'imprudence de faire imprimer, s'en fut assez pour motiver à tout jamais mon exclusion. Alors, ma vocation poétique s'était manifestée dès l'âge de 10 ans. Il était d'usage de faire la sabbatine, c'est-à-dire de repasser le samedi les leçons de la semaine. Au lieu des devoirs scolaires, j'apportais chaque fois un nouveau cahier de fables que le professeur lisait à haute voix devant toute la classe. Comme il s'est rencontré de temps en temps des vers assez heureux, mes condisciples disaient « voilà des vers dignes de Florian ». Ne lui dites pas, il le sait trop, s'écriait le digne abbé Surgier, notre professeur de rhétorique. Expulsé pour la seconde fois du séminaire, je me réfugiais au collège de Brive où je terminais mon cours de philosophie. Alors en 1827, je tirai au sort l'un des plus forts numéros méchus. Je restais à Montignac donnant des leçons à une trentaine d'enfants chez mon père. Au commencement de 1828, j'entrai au collège à titre de professeur et de maître d'études. Avant la fin de l'année, M. Granchet me procura à Bordeaux, dans la pension duplex rue Mériadec, une place analogue à celle que j'occupais à Montignac. Je lis ai connaissance avec Jacques Arago. Il dirigeait le Kaléidoscope, recueil mensuel dans lequel le spirituel écrivain publia plusieurs de mes fables. Désirant me faire agréger à l'université, je me présentai au collège de M. Granger. Il me repoussa sans pitié sous prétexte que j'avais traduit en vers quelques ordres d'Horace. Si bien que cette facilité de rimer que dans mon illusion j'avais prise pour un titre à la bienveillance fut un motif d'exclusion. Eh oui, on fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, sur ces entrefaites, je lus dans un journal que M. Maury, principal du collège de Nontron, demandait des professeurs. Je m'offris. Il m'accepta et je partis pour Nontron. J'ai été installé depuis 8 jours lorsque je reçois une lettre de mon supérieur qui m'invite à quitter son établissement parce que je fais des vers. Donc, M. Maury, le principal du collège de Nontron, comme je le disais, alors une liste de souscriptions que je fais circuler dans les environs de l'environ de Montignac couvrit les frais de mon premier recueil intitulé « Essais poétiques » imprimé à Sarlat en juin 1829. On en reparlera là, certainement la semaine prochaine. Voilà, alors donc voilà, au mois d'octobre, je reçus une lettre de mon cousin Henri, un des directeurs du chemin de fer de Roanne à Saint-Étienne. Il m'appelait auprès de lui pour un emploi dans ses bureaux aux appointements de 100 francs par mois. À 1830 arrive, après la révolution de juillet, je fais quelques chansons patriotiques, j'entreprends aussi la publication de recueils poétiques et mensuels avec la collaboration de plusieurs poètes vivants. Mon entreprise ne dura qu'une année parce que M. Henri me fit opter pour le titre de rédacteur en chef de l'Écho de la Loire et celui d'employé de chemin de fer. Le besoin me fit décider pour cette dernière fonction que je remplissais, je l'avoue, avec une négligence impardonnable. J'étais en pension dans une famille d'honnêtes industriels qui me traitait avec tous les soins imaginables. Déjà s'épanouissait au sein de cette famille une jeune fille de 15 ans, charmante, espiègle, enfant gâté s'il en fut. Plus je l'adorais, plus elle se plaignait à tourmenter par mille caprices l'ex-séminariste timide et inexpérimenté, bien sûr, qu'il était. Alors en 1932, je fus appelé à Furs pour servir d'interprète à deux Anglais conducteurs des locomotives, des ingénieurs Jackson et Stephenson. George, l'un de ces deux Anglais, fut une victime de la catastrophe du 8 mai 1840. J'avais appris tout seul leur langue d'après la méthode de Jacotot, ou plutôt d'après la méthode instinctive que tout homme qui se sent une passion pour une étude quelconque. Après un an de séjour à Furs, je rentrais à Roanne, que je quittais bientôt pour prendre l'arbitre saint-simonien à Lyon. Après quelques excursions apostoliques, j'exerçais un emploi d'interprète dans une maison de commerce. Nous devions aller exploiter des propriétés à New York. Arrivé à Paris avec un associé de l'entreprise, je me trouvais un beau matin seul sur le pavé de Paris. Mon compagnon de voyage était parti pour l'Amérique sans m'avertir, sans m'indemniser le moins du monde. Après quelques mois de séjour forcé dans la capitale, j'obtins de M. Henri l'argent nécessaire pour regagner Montignac. J'y passé une année chez des parents, donnant des leçons à deux petites filles. Mon père m'avait refusé l'entrée de sa maison pour me punir de ma vie errante et de ma persévérance à faire des poèmes, à faire des vers. Voilà, il ne pouvait se faire l'idée d'avoir jeté au feu. Voilà, donc il va, en 1827, j'intitulai pompeusement mes vers comme mes œuvres complètes, ce qui bien sûr partira au feu, comme je le précisais. Vers le mois de septembre 1832, le journal m'apprend que plusieurs Saint-Simoniens partent pour l'Égypte. Aussi me voilà décidé à les suivre. J'arrive à Lyon, mes amis viennent d'en partir. M'y trouvant seul, je passe par Roanne pour regagner mon pays. Je revois en passant la jeune fille, objet de mes voeux. Elle était mariée. Je monte en diligence et j'arrive à Azra, en Dordogne, où un curé, un de mes amis condisciples du séminaire, m'accorda l'hospitalité pendant un an. Je faisais espérer que je me destinais à recevoir les ordres. Il en parla même à l'évêque de Périgueux, qui se promit d'accueillir la brebis égarée avec toute la tendresse d'un bon pasteur. Mais quelques liaisons peu apostoliques, dont le bon curé s'aperçut, le mirent à même de constater que ma vocation n'était pas finalement fondée sur le roc, comme il devait abandonner sa maison curiale pour se mettre en pension dans un collège voisin. Il me procura un emploi de professeur et de maître d'études au collège de Brive, où j'avais terminé mon cours de philosophie 10 ans auparavant. Après les vacances, le principal me déclarait que je ne pouvais reprendre mes fonctions parce que j'étais trop familier avec les élèves. Quelques amis à qui j'avais fait entendre plusieurs chansons excitèrent mon orgueil au point de me faire espérer à Paris une renommée éclatante. Je cédais imprudemment à leur insinuation exagérée. Je vais à Paris avec l'illusion en groupe. Quelques jours après mon arrivée, le préfet des études de la pension Massin me procura un emploi auprès de lui. Je n'y restais que quelques mois. La position n'était pas tenable avec des jeunes gens qui se font une joie féroce de tourmenter les malheureux pions, objet de leur mépris. J'en sortis affligé et malade, un hôpital me reçut momentanément, mais il fallut bien sûr le quitter avec l'incertitude d'un logement. Et privé de tout moyen d'existence, j'ai logé pendant plus d'un an à 3 sous par nuit dans un garni de la rue de la Petite Truanderie. un ancien Saint-Simonien, M. Ducatel, dont la dame associée à quelques jeunes filles faisait des fleurs artificielles, mais me trouvèrent quand même un travail, m'a mis dans ces ateliers pour découper de la soie, du velours et de la mousseline. J'ai trouvé ainsi le moyen de me faire gagner ma vie. En 1839, Madame Gatti de Gamont, qui tenait une librairie phalatérienne, me fit à ses frais une première édition de mes fables, parce que tout avait été précédemment inséré dans le charivari, moyennant 3 sous par verre. Dès lors, je me fis colporteur de mon œuvre, emploi pénible et peu enviable, mais cependant continué jusqu'à ce jour. Je ne prévois pas, hélas, que je puisse y renoncer de longtemps. En 1840, des amis me firent une édition illustrée de dessins médiocres. Émile Souvestre avait consacré une préface à la première, me conseillant d'intituler mon recueil « Fables populaires ». L'auteur, disait-il, a encore beaucoup à gagner sous le rapport de la précision, de la pureté du style. Certes, des livres comme celui-ci n'ont pas la prétention d'aspirer aux lauriers académiques, mais ils peuvent servir dans les ateliers à soulever des questions morales et humanitaires. De là me vint le titre de fabuliste que j'endossais bien évidemment un peu trop à la légère, vu que mes poésies ne s'adressaient à aucune classe de la société exclusivement. Il en résulta pour moi une opposition équivoque, les littérateurs, les journalistes bourgeois jugeant d'après cette enseigne ne me prenait pas trop au sérieux. Ces bêtes, disait M. Théodore Buvette, n'ont pas d'esprit, mais au moins elles ont du cœur. Eh bien, il faut bien trouver quand même quelque chose. Alors nous ne devons pas être sévères, écrivait un autre envers un homme du peuple, etc., etc. Les ouvriers, ma foi, les ouvriers de leur côté, sachant que j'avais fait des études, me traitaient en bourgeois, si bien que mes camarades de la ruche populaire ne voulurent pas m'admettre au rang de leurs collaborateurs. Je faisais contraste à la chauve-souris qui se tirait à son avantage de toutes les positions critiques, tantôt oiseau, tantôt souris. Mes recours dans sa pseudo-biographie qu'il m'a consacrée attire ma naissance dont je ne rougerai nullement, si elle était véritable et si je cherchais à rectifier son erreur. Ce n'est pas pour obéir à un sentiment de vanité ridicule, mais comme le dictionnaire de Vapereau, le dictionnaire des conversations et les journaux qui ont eu la bonté de s'occuper de moi ont reproduit le mensonge plus ou moins volontaire de mon premier biographe. Je crois ma réclamation utile et légitime. On verra un jour cette biographie de Mirecourt qui s'était fait une spécialité dans ce genre de produits. J'ai toujours admiré les nobles artisans qui ont le courage de consacrer au perfectionnement de leur intelligence les heures destinées au repos de la nuit. Pour me targuer d'avoir bâillé et dormi pendant 8 ans sur les bancs d'un collège aux frais de mes parents. Ma réclamation a pour but encore d'assurer sur moi seules les fautes dont je suis justifiable aux yeux de la critique sans avoir le droit de réclamer le bénéfice des circonstances atténuantes. À la seconde édition donc, de ses œuvres, Augustin Chahaut me fit une préface trop élogieuse peut-être, mais qui me donna beaucoup d'émulation. Et en 1841, j'eus besoin d'en entreprendre une troisième. Elle n'était pas encore épuisée lorsqu'en 1843, j'entrais en relation avec Béranger, au grand poète, au mon maître, à qui je dois tant ma reconnaissance envers toi est éternelle. Évidemment, voilà la suite. Je m'étais marié en 1841 avec une femme aussi pauvre que moi qui avait eu le courage d'accepter de partager les périls de ma position précaire. Elle est morte en 1851, me laissant un garçon et une fille dignes de l'intérêt que leur ont témoigné nos amis et les parents de ma bonne Joséphine. Voilà, alors je crois que je suis arrivé au bout de mon quart d'heure. On va laisser là Pierre Lachambeaudy, et puis on va reprendre la fin de ses mémoires. C'est édifiant parce que c'est quand même une vie du 19e siècle que l'on ne connaît pas toujours, comment je pourrais dire, dans le détail. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine, bien ensoleillée. Au revoir et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.